Salut à toi, chère éleveuse, et salut à toi, cher éleveur. Toi qui nous écoutes en salle de traite ou bien sur ton tracteur, et à toi aussi, jeune futur éleveur, conseiller,
enseignant, étudiant, technicien, curieux.
Si tu es là, c'est que tu te poses probablement beaucoup de questions sur le lait, sa production, ses qualités sensorielles, organoleptiques, ses qualités sanitaires ou encore nutritionnelles. Et avec tout cela, tu te demandes quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans toute la filière pour y parvenir ? Les bonnes pratiques de l'élevage à la transformation ? Ou les bonnes pratiques sanitaires ? Ou encore celles qui prennent en compte la demande du consommateur ? Eh bien, figure-toi que tu as frappé à la bonne porte avec nos podcasts qui s'écoutent comme du petit lait. Et ça commence tout de suite.
Bonjour, Bricus.
Salut, Justine.
Il est où, André, le lait ?
Ben, t'es pas au courant, Justine ?
Non, quoi ?
Bah, il a été déclassé.
Oh, c'est pas vrai! Pourquoi?
Il avait beaucoup trop de cellules, je crois.
Bah, et alors? C'est quoi le problème?
Eh bien, le problème, c'est que le produit ne répondait plus aux attentes du consommateur.
Ah oui! Ça me rappelle l'absence de Jeannette. La mode de beurre rance à cause de la lipolyse. Ah, ou encore celle de Norbert. L'emmental qui a explosé à cause des spores butyriques. Tu aurais senti l'odeur? Heureusement qu'ils ont été contrôlés plusieurs fois. Ils ne sont donc pas arrivés sur les rayonnages. Ces produits n'étaient pas mauvais pour la santé, mais ils ne répondaient pas aux attentes du consommateur.
Et au fait, ils attendent quoi les consommateurs ?
Eh bien Bricus, pour répondre à ta question, les consommateurs attendent tout d'abord un bon produit fini. Mais pour aller plus loin, nous sommes avec Jean-Luc Ménard, qui est responsable de production laitière chez Agrial. Bonjour Jean-Luc Ménard.
Bonjour Philippe.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup ce qu'entendent par là les consommateurs ?
Alors, c'est d'abord un produit qui ne les rend pas malades.
Mmh.
Également, on fait toute une batterie d'analyses qui est effectuée à chaque étape de la fabrication du lait, du brut en fait, jusqu'au rayon. Voilà. Donc ensuite, c'est un produit qui est bon pour la santé, hein, avec des apports nutritionnels qui sont intéressants pour le corps humain naturellement. Ces produits laitiers en fait permettent des apports en protéines qui sont facilement digestibles. Alors, les acides aminés qui sont essentiels sont portés par les caséines dans le lait, hein, notamment, et en fait sont indispensables à la synthèse musculaire. Voilà. D'autre part, il y a aussi dans le lait des matières grasses d'origine animale qui sont essentielles, et notamment des acides gras saturés, dont on parle souvent, qui sont nécessaires à la maturation du cerveau. Il existe aussi les acides gras polyinsaturés, les oméga-3 notamment en font partie, et eux, ils sont nécessaires au développement et au fonctionnement cérébral. Alors, le lait contient également certaines vitamines, notamment les vitamines A, B, D et E. On notera également les apports qu'on a de calcium dans le lait, qui sont bien reconnus hein, depuis longtemps. Mais le lait contient également du phosphore, du magnésium, de l'iode, du zinc et du sélénium. Alors, forcément, on trouve tout ça sur la composition moyenne qui est inscrite sur les emballages.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de plaisir dans les attentes du consommateur ?
Oui, tout à fait. Il cherche à se faire plaisir hein, avec un bon goût et puis une odeur agréable également. Hein. Les acides gras du lait, en fait, modifient également le goût du lait et des beurres notamment. C'est là que c'est le plus marquant. Ce que l'on remarque également, c'est que la dégradation de la matière grasse peut entraîner une variation du goût de ces produits laitiers. Et notamment, c'est le cas de la lipolyse que l'on voit et qui entraîne un goût de rance sur le beurre.
Alors jusque-là, on a bien vu que les produits laitiers sont des produits complets, composés d'acides gras, de vitamines et autres minéraux indispensables au corps humain. S'ajoutent aussi à cela les attentes des consommateurs en termes de couleur, de facilité d'utilisation, et pour cela, des tests olfactifs et visuels sont régulièrement effectués sur la texture, la conservation ou encore la tartinabilité dans le cas du beurre. Mais les consommateurs ne vont pas être les seuls à avoir des attentes, hein. Les transformateurs laitiers aussi vont également être attentifs au rendement et à la fromageabilité, donc l'impact est à la fois technique et économique.
Mais alors du coup, quel lait faut-il pour répondre à toutes ces attentes ?
Eh bien pour répondre à ta question, Bricus, nous avons fait appel à Caroline Houlen, qui est vétérinaire chez Ellipse, et qui va nous décrire les principales caractéristiques de la qualité du lait.
Pour assurer les qualités nutritionnelles dont Jean-Luc a parlé tout à l'heure, on va piloter les taux, le taux butyreux, le taux protéique, ainsi que les acides gras comme les oméga-3, les oméga-6, en faisant des analyses soit sur le tank, soit à l'échelle de chaque vache. On peut demander par exemple un profil tank ou regarder les indicateurs manage lors du contrôle de performance. La concentration en caséine, elle n'est pas mesurée régulièrement, mais elle est fortement liée à l'alimentation ainsi qu'au stade de lactation. En général, la concentration en caséine est supérieure lors des 3 premiers mois. Quant à la lipolyse, elle aura une grande influence sur le goût et l'odeur. Elle a trois origines, la lipolyse spontanée, la lipolyse induite et la lipolyse microbienne. Pour la lipolyse spontanée, c'est fortement lié à la génétique de l'animal, à son alimentation comme on le verra après, à son stade de lactation, en général la lipolyse augmente en fin de lactation, et à la fréquence de traite, donc la lipolyse augmente quand le nombre de traites augmente. La lipolyse induite, elle est liée au choc mécanique du lait dans les tuyauteries. Et la lipolyse microbienne est liée à la présence de bactéries dans le lait. Les taux, TB et TP, la quantité de spores butyriques et les teneurs en acides gras vont impacter l'aspect et la texture des produits finis. La protéolyse est un phénomène de dégradation des caséines naturelles et nécessaire à la fabrication des fromages. Cependant, de temps en temps, elle intervient de façon incontrôlée avant l'étape de fabrication, lorsque certaines bactéries comme les pseudomonas sont présentes ou lorsque les taux cellulaires sont élevés. Le rendement de fabrication, lui, va dépendre de la matière utile, de la quantité de matière utile, comme les taux butyreux, les taux protéiques, mais aussi de la concentration cellulaire, de la proportion des caséines et de la présence éventuelle de protéolyse avant l'étape de fabrication.
Alors Jean-Luc Ménard, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous dire en fait quelles sont les bonnes pratiques d'élevage qui permettent à la vache de produire un tel lait du coup ?
Bien sûr, et il faut que les vaches soient d'abord en bonne santé, c'est le primordial. Il faut pour ça qu'ils aient également de bonnes conditions de logement et la santé passe par une bonne santé mammaire. Et ça, la santé mammaire sera vue dans un autre épisode donc, de ces futurs podcasts.
Oui, tout à fait. Ouais.
Quelques règles sont importantes. Hein. Par exemple, il faut réaliser des transitions alimentaires qui sont douces et plutôt sur environ de 3 semaines minimum pour que l'animal réagisse correctement à ces changements. Il faut également qu'on garde nos animaux en bonne santé pour obtenir des taux laitiers optimaux en fait. Hein. Et pour ça, il faut une ration qui soit équilibrée en énergie, en azote et en fibres. Cette ration doit être abondante naturellement, sinon on risque des problèmes notamment sur la lipolyse et les taux cellulaires qui ont tendance à augmenter rapidement. Et l'eau, bien sûr.
Ah oui, effectivement, avec une eau de bonne qualité, distribuée à volonté et en permanence.
Bien sûr.
Bien, les vaches, elles mangent quand même pas la même chose toute l'année, non ?
Ah, effectivement, Bricus, tu as raison. Et peut-être que Caroline Hollène peut nous expliquer comment ça se passe à la belle saison. Caroline Hollène, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales pratiques en matière d'alimentation, de ration, de pâturage qui permettent en fait à la vache de produire ce lait ?
Souvent, à la belle saison, les vaches sont soit au pâturage, soit elles bénéficient de l'affouragement en verre. Mais attention, il faut distinguer deux phases d'exploitation de l'herbe. Soit le printemps ou l'automne, lorsque la pousse de l'herbe est vraiment importante, avec une herbe jeune, grasse, riche. Et le plein été, où l'herbe est beaucoup plus ligneuse, moins feuillue et donc beaucoup moins riche. En phase de pousse d'herbe importante, on observe une baisse du TB et une augmentation du TP. Le lait contient alors beaucoup plus d'acides gras polyinsaturés. Il sera d'autant plus riche que la pâture contient des plantes à tanins, comme le sainfoin, les trèfles, la luzerne et la chicorée. Au printemps et à l'automne, on observe aussi une augmentation des caroténoïdes, et donc de la couleur jaune du lait. La quantité de caséine augmente s'il n'y a que de l'herbe verte ou séchée dans la ration. Mmh. Ainsi, à cette période, en général, il y a moins de lipolyse, et dès qu'on met 3 kg de matière sèche d'herbe dans la ration, le beurre devient plus jaune et plus tartinable, et les rendements fromagers sont meilleurs. En phase de ralentissement de la pousse d'herbe et des piaisons, les TB et TP se rapprochent de ceux qu'on peut observer lorsque la ration est conservée. L'été, le risque de lipolyse augmente. Les taux cellulaires ont aussi tendance à se détériorer à cette période de l'année, pouvant entraîner de la protéolyse et donc une réduction des caséines. Mais la qualité de l'herbe varie. Et donc, pour préserver les taux et limiter la lipolyse, les cellules et les mammites, on peut compléter la ration avec des fourrages conservés, des concentrés et des minéraux. Mettre en place des prairies multi-espèces, ça permet d'un côté d'augmenter le temps d'exploitation de l'herbe dans la saison, et donc augmenter aussi les flaveurs du lait. Mais comme la concentration de caroténoïdes est liée à la proportion de graminées, dans les prairies multi-espèces, comme on diminue la quantité de graminées, la quantité de caroténoïdes va aussi diminuer lorsque les vaches consomment l'herbe des prairies diversifiées. Dans tous les cas, il faut bien suivre son pâturage pour que l'herbe soit bien consommée et consommée au bon moment. Il faut également s'assurer de la qualité de la prairie. Par exemple, quand on épand des fumiers, et notamment ceux de volailles, ou alors des lisiers et des composts, il vaut mieux attendre au moins 4 semaines avant de remettre les vaches à pâturer. L'herbe sera mieux consommée et on limitera les risques de botulisme et de salmonellose. Une attention particulière sera portée à l'eau d'abreuvement. Elle doit rester disponible à tout moment, propre et de bonne qualité bactériologique.
Alors Jean-Luc Ménard, pour répondre à Bricus, quelles sont les principales pratiques en matière d'alimentation hivernale qui permettent à la vache de produire ce lait ?
Oui, alors effectivement, en hiver par exemple, les régimes alimentaires sont plus stables. Ils sont constitués de différents fourrages qui sont conservés, on va y revenir tout de suite. Et donc on a moins de transitions qu'au printemps, puisque la variation de l'herbe fait des transitions en fait finalement. Cela permet quand même de limiter les variations qu'on a sur le taux butyreux et les taux protéiques. L'ensilage de maïs, si on y vient maintenant, hein, effectivement, il est stable et il permet en fait de piloter facilement ses taux TB et TP. Donc le maïs est également à un taux variable en fait en spore butyrique. La lipolyse varie également avec ce fourrage. Ce que l'on a aussi, c'est des taux cellulaires qui peuvent être différents en fonction des différents types de maïs et qui jouent sur la protéolyse du lait.
Ok, alors que dire à propos de l'ensilage d'herbe ?
Lorsque l'ensilage d'herbe constitue le fourrage principal, les oméga 3 sont plus élevés dans le lait qu'avec de l'ensilage de maïs seul. Lorsqu'on a plus de légumineuses dans cet ensilage d'herbe, on a également une augmentation de la concentration des acides gras polyinsaturés dans le lait. On remarque aussi une augmentation souvent de la lipolyse et des spores du butyrique lorsqu'on a une augmentation de la consommation d'ensilage d'herbe. Des études montrent également que les oméga-3 sont en concentration un petit peu moins élevée dans le lait lorsqu'on utilise effectivement cet enrubénage plutôt que de l'ensilage d'herbe.
Et lorsque le foin constitue le fourrage principal ?
Lorsque le foin est coupé jeune, en fait, avec des feuilles jeunes, la teneur en oméga-3 est beaucoup plus importante que lorsque le foin est coupé lorsque l'épiaison est déjà bien avancée.
Alors du coup, comment est-ce qu'on peut agir sur la ration pour obtenir des produits plus tartinables ou qui correspondent plus en fait aux attentes des consommateurs ?
Alors, on a vu que plus on a d'oméga-3, plus c'est tartinable. Et pour obtenir des oméga-3 dans la ration, eh bien, il faut apporter par exemple des luzernes, par exemple des trèfles et du lin, pourquoi pas, qui permettent en fait d'améliorer ce taux d'oméga-3 dans la ration et des taux d'oméga-3 dans le lait. Et le deuxième point, c'est également d'utiliser des produits qui sont plus faibles en oméga-6, comme le tourteau de colza, par exemple.
Donc globalement, à stade de récolte identique, lorsque la conservation est bonne et que la ration est bien calée, le mode de conservation des fourrages à base d'herbes, que ce soit du foin, de l'ensilage, de l'enrubanage, a assez peu de conséquences sur les produits finis. Ce podcast touche à sa fin, alors Justine, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Si j'ai bien compris, pour que je sois de qualité et appréciée des consommateurs, il faut à minima que je sois produite par des vaches en bonne santé, nourries avec une ration équilibrée et abondante, mais aussi abreuvées avec une eau à volonté et de qualité.
Et voilà, chers auditeurs, ce numéro de Podlait est terminé. Pour obtenir des produits laitiers de qualité, des analyses et des procédures sont mises en place tout au long de la chaîne de production. Ce qui fera un excellent sujet pour notre prochain numéro de Podlait, le podcast qui s'écoute comme du petit lait.